Alors bonjour, François Strossard et la belle équipe, c'est la récré de France Culture jusqu'à 13h58. À l'affiche Joli Dimanche et Drôle d'épistolier avec Quasimodo. Le droit de réponse de la Madeleine de Brel par Hervé Le Tellier, Violaine Schwartz. Et pour boucler cette première partie des Papous consacrée à des héros de fiction en colère, la Vénus de Milo postule pour danser à l'opéra, Dominique Muller.
J'essaierai volontiers une paire de bras ou même un seul pour vous prendre dans mes bras, vous parler tout bas. Nous discuterons de mon salaire qui ne vous coûtera pas un bras. Cela dit, pour vous montrer que j'ai le chance de l'humorus, sinon de l'humérus. C'est qu'on rigole avec elle.
Ah ouais. Et puis une vie de pilulier, le joli dimanche d'André Breton. Et le DLA avec les experts Gérard Mordilla, Patrick Beignet, Jacques Vallée et Patrice Delbourg.
Il y a un mélange de genres curieux, ça commence un peu comme une chanson. Ah madame, j'ai du bon fromage, vous voyez, ça peut commencer comme une chansonnette, une ritournelle. Et puis après, il y a cette énumération qui est quand même un peu plus mastoc. Hein.
Merci de votre fidélité à nos Dimanches Papous et bienvenue aux nouveaux qui nous découvrent. Une émission à télécharger sur franceculture.fr, rubrique podcast pendant un an, à réécouter 1000 jours et puis la nuit. Place au joli dimanche. C'est une série de pastiches dédiées à ce jour qui partage le monde en deux, ceux qui aiment, ceux qui détestent, ceux qui travaillent, ceux qui bullent. Le dimanche, tout est permis. Hervé Le Tellier a écrit pour aujourd'hui son 9e joli dimanche depuis le lancement de cette série à la rentrée de septembre. Et c'est le joli dimanche de Rabelais.
Lorsque la fin de semaine arrivoie, le jour même que la chrétienthèse consacroit à Notre Seigneur, il estoie courant que Pantagruel alloie chez sa génitrice à Champigny sur la rivière Marne. Il prenoie la voiture et demandoit à sa femme de l'accompagner. Mais elle avoua souvent des maux de la cervelle et parfois même des évanouissements. Et sinon, argumentois avec des arguments sophistiques qui le suffoquoient, car elle les faisoit fort bien in modo et in figura. « Ne veux-tu point venir pour de vrai ma tendrette, ma braguette, ma savate, ma pantoufle ?» insiste-toi le bon géant à la teste desconfite. « Non, va donc, mon bon ami, et roule avec prudence, car vivre sans toi ne me serait que languir. Et n'oublie pas de saluer ta mère, Janinon, que j'aime moi beaucoup, et surtout de loin comme de figuré. Ainsi que ton Albert paternel, qui estoie bien patience avec tous les soucis qu'il avoie depuis qu'il estoie pensionné de son emploi d'instituteur. » Alors, Pantagruel embrassoit sa poussinette et prenoit avec son coche la rue du Simplon, qui engendre le boulevard Ornano, qui engendre le périphérique, qui engendre la E50, qui engendre la E54 et qui engendre in fine la D11 et passoit devant l'estaminet Auchan-Flunch et d'autres établissements tenus par des Écossois. Il arrivoit pour finir devant le Passe-Villon et trouva 6 petites placettes qu'il escarbonia son paré-stock. « Ah !» dit la mère Janinon, qui estoie déjà sur le seuil, près de la chevillette et de la bobinette. « Ah, mon fils !» dit la mère, « mon beau couillon, mon peton, que je suis tenu à Dieu de ce qu'il m'a donné un si gentil fils, tant joyeux. Monstre-toi bien. Ah, mais n'as-tu point encore grandi, mon joli engendrement? N'as-tu point pris au moins un pied depuis que nous nous sommes vus? Mais où est donc ta femelle? Estoie-t-elle encore pâle et maligossée, comme à chaque fois qu'elle doit venir chez nous et que ne puisse pas ?» Ce disant et sans attendre, elle le poussa dans le petit salon et disoit à son espoux qui somnoloit face à l'escran plat, qui venoit de l'empire des Chinois. « Allons, Albert, donne l'embrassade à notre progéniture, apporte le gigot, rince les verres, boute la nappe, souffle le chauffage central et ferme-moi cette télévisote. » Albert embrassoit alors son fils et installoit tout ce que sa femme lui disoit, puis chacun s'assaillot et Pantagruel disoit les grâces. Omnis, dimanchus, dimanchobilis, in dimancherio, dimanchando, dimanchans, dimanchantivo, dimanchare facit, et flageoles, et gigotus abet, dimanchos. Ergo gluc. Bon, mangeoit alors, et l'agneau rosti, estoie cuit, comme il se faisoit chez les Anglois, et cesse-toi ta mangeable. Mais il laisse-toi déjà le temps de rentrer en coche. Pantagruel prit une dernière décoction de grain brûlèze, que sa matière fasse voir toujours aussi clair que piste d'âne sarrasin, et repart-toi en escarbognant cette fois-ci sa portière. Lorsqu'il arriva chez lui, il ne trouva pas de place pour la voiture et tournoya longtemps. Lorsque tout fut achevé, Pantagruel retrouva sa femelle, qui n'avoua plus son mal de la cervelle, ni ses évanouissements. Et ils firent alors, eux deux ensemble, la bête à deux doses, qui, joyeusement se frottant leurs lards, et ce à deux reprises, comme cesse-toi chaque fois la tradition de la fin du dimanche.
Jacques Vallée, Gérard Mandilla et Jacques Abertrand maintenant dans la peau de trois drôles d'épistoliers. Et ils ont des choses à se dire, ces trois-là, mais ce ne sont ni des caractères faciles, ni des gens très doués pour la simplicité. Alors, le premier, rôle endossé par Jacques Vallée, se sert du deuxième, rôle tenu par Gérard Mandilla, comme intermédiaire pour atteindre le troisième qui, lui, répondra à qui il veut par la plume de Jacques Abertrand. Et attention, ces trois personnages ne sont pas n'importe qui. Vous nous expliquez, Jacques Vallée, puisque c'est vous qui lancez cet échange de lettres.
Oui, je suis Quasimodo et j'écris à Jean Cocteau. Ah,
alors, ça se voit pas du tout. Hein.
Ah, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, si vous croyez que vous lui ressemblez, non.
Vous ressemblez davantage à Victor Hugo. Hein.
Oui, Quasimodo, il n'est pas content.
Non, il écrit à Cocteau, il demande de l'aide à Cocteau.
Ah, c'est bizarre, pourquoi Cocteau, ça On va savoir. Alors racontez-nous.
Cher Cocteau, j'ai à me plaindre de mon créateur, M. Hugo, car vraiment, c'est impossible de m'adresser à lui directement. Vous le connaissez ? Ce type est imbuvable. Il possède un ego tellement enflé qu'il n'admet aucune critique de personne, ni de la part de ses contemporains, et encore moins de la part de ses créatures. Persuadé qu'il est un génie infaillible, placé au centre du monde comme un écho sonore. Il n'écoute que son nombril. Un maelstrom où tout se perd, tout disparaît dans son nombril. Le génie, croit-il, c'est comme la divinité. Circuler, on ne discute pas. Il dit, c'est le relief au-dessus du genre humain. Il dit, la raison, c'est l'intelligence en exercice. Le génie, c'est l'intelligence en érection. Bref, comment lui faire entendre raison ?
Mais il écrit pas mal, moi je trouve, non ?
Quasimodo. Alors, je compte sur vous qui le fréquentez dans l'Olympe. Voici les faits. Il m'a fait sonneur de cloche à Notre-Dame. Pas son corps, bien que j'ai horreur de la musique. Mais il m'a fait bossu, difforme, monstrueux. Je suis le borgne, le bancal, le cyclope mal ressoudé, le diable, rien que ça. Écoutez, la grimace était son visage. Ou plutôt, toute sa personne était une grimace. Une grosse tête hérissée de cheveux roux. Un système de cuisses et de jambes si étrangement fourvoyées qu'elles ne pouvaient se toucher que par les genoux. De larges pieds, des mains monstrueuses, etc. Inutile de vous faire un dessin, je suis habillé pour l'hiver. Je suis le vilain singe, la bête. Et justement, à propos de bête, j'aime une belle, Esmeralda. Une fée, un ange. Une nymphe, une déesse, une salamandre, une éblouissante vision. Oui, monsieur. Et justement, Cocteau, j'ai entendu parler de vos dons de démiurge. Vous connaissez les secrets pour venir en aide à un homme victime, comme moi, d'un abominable sortilège. Vous savez démêler les apparences qui déguisent les choses. Ah oui, comme l'image est trompeuse pour nos sens, pour nos cœurs. Donc, vous qui êtes familier avec le surnaturel, vous qui fréquentez Longeur Tobis, Eurydice, le Sphinx, Deep Orphée, que sais-je, avec votre expérience de la magie qui permet de transformer un monstre en prince charmant, je vous demande de convaincre cet autiste du dos que pour moi aussi, une métamorphose est possible. Votre monstre était encore plus handicapé que moi, avec le terrible cliquetis de ses écailles, avec ses affreux hurlements. Il a trouvé le bougre, le moyen de séduire sa belle, douce et modeste. Alors, je rêve qu'Esmeralda vienne me donner sa main et dise sa douleur de ne pouvoir vivre sans moi. Alors, je vois mon sinistre clocher changer en un château brillant de lumière avec des feux d'artifice. Et moi, c'en ne serait fini de mon infernal enchantement. Je serais à ses pieds comme un prince, plus beau que l'amour. Quasimodo transformé en Jean Marais. Oui, c'est possible. Je remets donc mon sort entre vos mains. Car enfin, Cocteau, qui avait l'élégance d'un demi-dieu, vous êtes un charmeur. Ce ne sera pour vous qu'un jeu d'enfant de persuader ce butor qui m'a créé. Vous savez que M. Hugo est sensible au magnétisme, aux esprits frappeurs, aux charmeurs de serpents. Et cette aventure ésotérique, ma troublante métamorphose, ne peut que le fasciner. Quasimodo, sonneur de cloches.
Quand même, vous êtes un peu injuste avec Hugo. Je trouve ce qui vous a donné un beau métier, être sonneur de cloches, c'est quand même formidable.
Mais l'apparence, quand même, laisse à désirer.
Oui, mais au moins, vous avez de la personnalité. Vous ne ressemblez pas à tout le monde.
Ah oui, mais j'aimerais bien être Jean Marais.
Alors, si je comprends bien la distribution, Gérard Mordia, vous êtes Jean Cocteau.
Je le suis, oui.
Et Jacques Bertrand sera Hugo.
Oui, tout à fait.
Ça vous va bien, tous les deux. Enfin, Gérard Mordia Cocteau, j'attends de voir. Mais...
Non, ça me va très bien. J'admire beaucoup Cocteau, très grand cinéaste, merveilleux poète aussi. Non, non, vraiment un artiste de variété, magnifique.
Et alors, qu'est-ce qu'il pense de ce courrier qui est assez poignant, quand même, de Quasimodo ?
Oui, c'est assez poignant, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de correspondance qui circule au paradis. Donc, il écrit à Victor Hugo pour lui en faire part.
D'accord.
Mon cher Totor, je confie cette lettre à mon ange Ortebise pour qu'elle t'arrive avant ce soir. C'est plus sûr que par Paradis Poste, dont les tarifs ont d'ailleurs augmenté. Ne t'énerve pas, mais cette fois, c'est à moi que ton Quasimodo s'adresse. Il voudrait que je le change en Jean Marais pour séduire la mignonne Esmeralda. Comme toujours.
Pas sûr que ça soit une bonne idée.
Hein. Non. Effectivement, oui.
Comme tu le sais, il fait le coup au moins une fois par mois. Oh. Tout le monde se souvient ici qu'il a demandé à René Clair de le transformer en Gérard Philippe et que ce pauvre René, si myope et si distrait, lui a remis une couche de Michel Simon.
Oh non.
On n'a pas fini d'en rire.
Ah bah oui.
D'ailleurs, je suis sûr que c'est ça qui a donné l'idée à Walt Disney de l'habiller pour l'hiver en méchant loup, lui qui réclamait la grâce d'être un prince charmant. Et je ne te parle pas de Lautner qui a flingué sa prière en lui administrant un cocktail Blié Ventura Francis Blanche dont il ne s'est toujours pas remis. Depuis, Quasimodo, on l'appelle la reine des pommes. Alors, cette fois... Mais c'est à ton tour de nous régaler d'un nouvel avatar de ton Quasimodo dont le visage et le corps sont désormais une anthologie des disgrâces et des grimaces que l'humanité peut créer. Sans vouloir te commander, tu pourrais rajouter à sa bosse celle de Richard III et en faire un chameau. Lui coller le nez de Gainsbourg ou celui de Cyrano, lui donner les trois doigts de Mickey et les jambes du nain Pierral. Et si tu n'as pas le temps, tu peux toujours demander à Picasso de lui arranger le portrait une fois pour toutes. Je compte sur toi, Totor. L'angélisme, l'irénisme, la béatitude, c'est vraiment casse-pied à la longue. Et il n'y a pas de raison de se priver d'une bonne partie de rigolade lorsqu'elle se présente. La bise à Juliette, je te froufroute les ailes, ton Jeannot.
Ce qui est rassurant quand même, c'est que vous soyez tous au paradis. Hein. C'était pas gagné d'avance quand même. Non. Alors, bon, ça s'arrange pas pour Quasimodo, mais il est pas au courant hein, après toute cette lettre. Et Totor, Victor Hugo, Jacques Bertrand.
On se fait des idées sur le paradis.
Ah, on se fait des idées sur le paradis,
oui,
vraiment.
Tout à fait. Donc, Victor Totor va écrire à Quasimodo.
Oui. Il faut régler les comptes et,
oui, faut
et les choses,
oui. Il faut mettre les pendules à l'heure, même au paradis.
Oui.
Cher Quasi, permettez que je vous appelle Quasi, ou vous pouvez, si vous préférez, m'appeler Totor. Eh bien, mon cher Quasi, des choses, j'en ai vu, croyez-moi. Mais un personnage protégé par le copyright, qui prend la plume sans même savoir ni lire ni écrire pour exprimer ses doléances à un confrère, pire, un concurrent, ça, je ne l'avais pas encore vu. Avez-vous seulement lu le livre dont vous êtes un personnage emblématique ? Eussé-je fait de vous un beau jeune homme, fade comme la plupart des jeunes boues, vous seriez passé inaperçu. D'abord, qui vous a dit que vous êtes laid ? Les Walt Disney, les créateurs de comédies musicales. Moi, je vous ai donné la beauté du cœur. C'est la seule vraie beauté, croyez-moi. Et puis, franchement, vous n'êtes pas si laid que ça.
Ah bon ? C'est tout est relatif.
On finit par s'habituer.
Oui.
D'ailleurs, vous êtes une pièce maîtresse de mon dispositif scénique, comme disent les jeunes metteurs en scène. Sans vous, Notre-Dame de Paris, ce serait du théâtre de boulevard. Et puis, vous savez que les jeunes touristes américains, ils ne demandent pas à voir Notre-Dame, ils demandent à voir la maison de Quasimodo.
Ah oui ?
Ah oui, tout à fait. Et entre nous, Jean Marais dans La Belle et la Bête, je le préfère de loin en bête. Bon, et de toute façon, cessez de vous plaindre auprès de mes rivaux, misérables.
Bon, ça s'arrange pas, mais il n'a pas tort, hein, Totor.
Oui, mais moi je les croyais dans l'Olympe, ils se retrouvent tous au paradis, donc ça me chiffonne un peu.
C'est un peu douteux. Hein. Moi j'aime bien qu'il vous appelle cher Quasi, je trouve que ça vous va bien. Et puis quand même, au cinéma, Quasimodo, c'était Anthony Quinn qui est magnifique.
Oui, oui.
Mais là, il préfère Jean Marais, bon, c'est tout.
Préfère Jean Marais,
qu'est-ce que vous voulez, ça ? Chacun ses goûts, voilà. Hein. Chacun ses goûts.
J'ai marqué d'une croix la clôture de ta cour. Je suis rentré chez moi par la sortie du cours. Je me suis dit tout bas, non, ce n'est pas mon jour. Son cœur est un détroit, ses yeux un carrefour. J'ai pris l'harmonica descendu dans la cour. Et dessous du lilas j'ai chanté sans détour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. L'amour est un tournoi où tombe tour à tour les guerriers maladroits noyés dans la bravoure. Si c'est ce que tu crois, si tel est ton discours, sois sûr qu'une proie deviendra ton vautour. Alors que fais-tu là, enfermé dans ta tour? Je veux briser les lois qui règlent tes amours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Tu entendras ma voix dans le ciel du faubourg. J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd. N'entends-tu pas déjà le conte à rebours? Ouvre ta véranda, annonce mon retour. Je foncerai comme un ours aux pattes de velours. Je veux toucher du doigt la peau de ton tambour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours.
Des papous dans la tête. Vous les écoutez sur France Culture.
Oui ! Absolument, Lucas. Et nous étions même en très bonne compagnie sur France Culture au Papou. Il y avait Hugo, Cocteau et Quasimodo, tous au paradis. Ça, c'est plus étonnant. Je ne sais pas si l'héroïne dont va nous parler Hervé Le Tellier est toujours de ce monde, mais elle est plus récente tout de même. Et elle a, elle aussi, des choses à dire à l'auteur de ces jours, parce que c'est fou comme les personnages de fiction s'ennuient dans leur vie, alors que nous les envions d'avoir des destins romanesques. Vous êtes qui, Hervé Le Tellier ?
Je suis Madeleine.
Ah, laquelle ?
J'écris à Jacques Brel. Oui.
Ah, voilà. Ah. Non, parce qu'il y avait le choix, hein. Vous êtes plusieurs quand même.
Oui, oui, oui. Il y en a une dans Proust, par exemple.
Il y en a une dans Proust, oui.
Et dans Victor Hugo
aussi.
Oui. Et puis dans les petites films d'elle.
Ah, mais il y en a partout, hein.
Ah, oui.
Il y en a partout.
Donc vous êtes celle de Brel.
Oui.
Ce soir, j'attends Madeleine.
Oui, oui.
Et Madeleine, elle vient jamais, dites donc.
Bah, dites donc, oui.
Ah, bah oui, c'est pas normal, hein.
Je peux vous expliquer pourquoi ?
Oui, oui.
Non. Cher monsieur Jacques Brel. Ça fait un petit moment que je veux vous écrire, et je prends enfin mon courage à deux mains. Je n'aurais pas dû laisser s'installer entre nous cette situation ambiguë, situation dont je me rends compte que je suis peut-être en partie responsable, mais de manière inconsciente, croyez-moi. La première fois, monsieur Brel, si j'ai bien voulu manger des frites chez Eugène, c'était seulement pour vous faire plaisir, parce que je voulais vous remercier pour ce que vous aviez fait pour un de mes cousins, un dépressif, Jeff, que vous n'avez pas laissé seul quand il traversait un moment difficile. De toute façon, si vous connaissiez Jeff, vous sauriez qu'il traverse tout le temps des moments difficiles. C'est pénible, mais c'est de sa faute. Il tombe amoureux de filles qui ne sont pas pour lui, et apparemment, vous avez des points communs. Et puis, Jeff aussi, vous l'aviez emmené manger des frites. Finalement, je vous assure, ce n'est pas terrible non plus pour Jeff. Il est déjà bien assez enrobé. Moi, par exemple, je n'aime pas les frites. Et ensuite, les lilas, franchement, c'est pareil, c'était gentil, je sais bien, mais ce n'était pas la peine. Je vous l'ai déjà dit la fois où on s'est vu, je suis plutôt allergique et je trouve que ça sent trop fort. J'ai dû m'en débarrasser dans la Meuse, pour tout vous avouer. La fois où on s'est vu, vous m'avez dit « je t'aime » et vous vous êtes dit que j'aimais ça. En fait, si j'ai un peu pleuré, je viens de vous le dire, c'est à cause des lilas, le rhume des foins, quoi. Je vous dis, ça donne de la conjonctivite, donc ce n'était pas l'émotion. Pour le cinéma, je suis désolé, mais il faut arrêter de vouloir lui emmener, surtout si c'est pour me dire des « je t'aime ». Le cinéma, c'est pour voir des films. C'est un point, c'est tout.
Elle n'est pas romantique du tout. Hein.
Oh, bah écoutez, hein. Ah, et puis, je ne vous l'ai pas encore dit, mais je n'aime pas les films d'action doublés en français. Bon, alors il faut me laisser tranquille maintenant, monsieur Brel. Je vous aime bien, mais je voudrais bien pouvoir retourner chez Eugène sans risquer de tomber sur vous avec vos longs bras ballants, vos yeux de merlan frit, votre tête de chien battu. Je vous assure, ça ne donne pas envie. Aucune fille n'a envie d'être aimée comme ça. Je vous ai envoyé mes cousins pour vous le dire. D'abord Joël, et puis Gaston, et puis Gaspard. Mais apparemment, ça ne sert à rien. Je suis votre horizon, votre espoir, votre Amérique à vous. Mais non, non, non et non. Arrêtez, quoi. Alors je le redis, je suis désolé qu'il pleuve sur vos lilas toutes les semaines. Vous n'avez qu'à attendre ailleurs, au soleil. Et surtout, attendre quelqu'un d'autre. C'est ça. Il faut que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Ça marche souvent bien, vous savez ce qu'on dit. Un clou chasse l'autre. Alors voilà, j'ai une cousine, Mathilde. En ce moment, elle est toute seule. Elle n'a pas l'habitude, c'est le moins qu'on puisse dire. En général, ça se bouscule au portillon et elle ouvre souvent la porte. Je lui ai dit que vous étiez tout le temps devant chez Eugène avec des lilas. Elle ne peut pas vous rater. Et puis, elle n'est pas allergique, elle. Vous verrez, elle est gentille. Enfin, si on aime ce genre-là. C'est du bois pour l'enfer, si vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin, bon, je suis certain que vu votre état, elle ne peut vous faire que du bien. Bien à vous, Madeleine.
Elle en a marre. Hein.
Ah bah écoutez,
il l'insupporte. Hein.
C'est quand même un peu lourd. Hein.
Ouais. Mmh. Bah c'est pas du tout son genre, quoi.
Ben c'est pas son genre et puis bon, voilà. c'est un peu pénible, hein, imaginez. Hein.
Maintenant, les frites vont entrer au patrimoine de l'humanité.
Ah oui, bah,
oui c'est vrai, il y a une demande. Mais les frites belges.
Alors, à quoi ça sert les frites si on n'a pas les moules, hein. Je suis désolée.
Dites-moi, Violaine Schwartz, vous êtes quelqu'un dans l'univers de Jacques Brel ?
Je suis quelqu'un dans l'univers de Jacques Brel, oui.
Quelle chance, vous êtes qui ?
Bon.
Un bonbon. Quand on dit je vous ai apporté des bonbons, c'est vous ?
Ouais, oui, c'est moi. Chère Madeleine, bon. J'ai trouvé votre lettre traînant sur le piano de Jacques. Bon, je l'ai sorti de son emballage. J'ai jeté un œil en cachette. Bêtise de Cambrai. Et là, je m'aperçois que vous m'avez oublié, Madeleine. Je vous ai apporté des bonbons, parce que les fleurs, c'est périssable. Puis bonbons, c'est tellement bon. Surtout moi, Madeleine. Surtout moi, Mathilde. Surtout moi, Frida. Je ne sais plus, je me bergamote dans les prénoms. Tellement de femmes dans la vie du grand Jacques. Et j'ai passé tant de temps au fond de sa poche à attendre sur la grande place, devant le tram 33, dans l'odeur de frites et de lilas blancs que j'en perds mes cachous, Tagada. Ah, parce qu'il essayait toutes les tactiques, monsieur Brel. Et toute la scène baignait dans une odeur de lilas à la menthe, la jaunie, imprégnée de gras, et parfois aussi un relent de moule, parce que à quoi ça sert la frite si t'as pas les moules. Et bien sûr, pauvre Jacques, c'était perdu d'avance. Les femmes, elles descendaient jamais du tram 33 et en restaient là comme des flancs. Mais bon, je me disperse. Madeleine, je voulais simplement me rappeler à votre bon souvenir. Bon, pastillement, le bonbon. Pas l'air de lâcher ce bon bonbon.
On va la remettre dans son papier. Parce que... She loves him so, Madeleine's my Christmas tree. She's a
is. Oh, honey.
She is much more than pretty. She is all that you know. She is my whole life to me. I love my Malibu so, so.
I'm waiting for my Lambo. I'm getting soaked and wet. I'm always getting soaked and wet. I'm singing in the rain.
She always knows by now. I bet the girlfriend tries some who knows when. But Elaine is not here yet.
She is much more than pretty. She is all that you know. She is my whole life to me. I love my Madeline so.
I waited for Madeline. I only have myself to blame. I went caught a cold again.
She never came. Madeline's my tears of me. She's America to me. It's true that she's too good for me. That's what her brother always says. I waited for Madeline. It's always been the same. I'm waiting here since who knows when. But Madeline, she never came. She is much more than pretty.
Much more than pretty.
She is all that you know. You love that song. I'm going to wait for Madeline. We'll go down and eat a Jones. French fries are from who knows when. But Madeline, she loves that song. Madeline's my Christmas tree. She's America.
Wasn't that just precious?
You mother.
Madeleine, version show Elliott. Troisième volet de ce triptyque Papou, consacré aux personnages parmi les plus connus de tous. Alors, après Quasimodo et Madeleine, une autre femme qui se rêve différente. Elle ne travaillait pas, mais l'oisiveté lui pèse. Elle prend son courage à deux mains pour rédiger curriculum vitae et lettres de motivation et tenter de changer de vie. Et elle est volontaire. Elle a de l'ambition et très envie de plaire à ses recruteurs. Est-elle assez jeune? Question. Saura-t-elle les séduire? Autre question. Mettre en avant son profil, gommer ses faiblesses? On va voir. C'est qui cette jeune femme, Dominique Muller, jeune ou pas?
C'est la Vénus de Milo, qui cherche du boulot.
Ah bah,
les choses en l'eau.
Elle a raison, on ne peut pas toujours vivre d'exposition
justement.
Et de gloire.
Ah, juste
pas de bras, pas de chocolat.
Et elle écrit donc à la direction de l'école de danse de l'opéra.
Ah oui, carrément. Oui.
Cher directeur, triste, enfin, elle ne sait pas très bien. Je commence par la lettre de motivation, parce qu'il faut tout de même donner un peu.
C'est une lettre manuscrite.
Surtout dans ce... C'est une lettre, en effet, qu'elle a dictée à son ordinateur grâce. Ma motivation est si profonde qu'elle va, j'en suis sûre, pincer votre corde sensible, comme celle du luth dont mes mains ont joué jadis. Mais si ma candidature au poste de répétitrice des danseuses vous surprend, ne dites pas les bras m'en tombent. Je me mords les doigts de les avoir prononcés étourdiment, ces mots, avec le résultat que vous savez. C'était il y a longtemps, et depuis ma célébrité me pèse. Qui voudrait n'être dévisagé que pour un manque, un vide? Qui voudrait subir les calembredaines des historiens de l'art sur la position hypothétique de ses bras? Qui enfin voudrait être tripoté par des restaurateurs prêts à coller des membres inconnus à un corps sans défense? La Vénus de Milo n'a-t-elle pas des yeux? N'a-t-elle pas des sens, de l'affection, de la passion, dans la chaleur et le froid du même hiver et du même été que vous?
C'est la Vénus de Shylock.
Shakespeare, en songeant à ces cœurs de pierre qui doutent de mes compétences pour le mouvement. Professer n'est pas gambader, enseigner n'est pas tournoyer, mais dans ces verbes, il y a fesser et saigner. Les élèves ont besoin d'une discipline sévère et je resterai de marbre devant leurs plaintes, leurs pleurs. Rien ne m'empêchera de pousser ces corps souples off-limits. Cela fait une éternité que j'inspire la timidité respectueuse du chef-d'œuvre, votre chef bientôt à pied d'œuvre, prenant sa mission à bras le corps. Pas un instant, ma mémoire n'a cessé de danser, de répéter les positions. La première, bras en cercle et mains au nombril. La seconde, bras allongés à hauteur des épaules. Et ainsi jusqu'à la sixième, arrondi, ou tendu, ou plié, ou battu, ou chassé, ou jeté. Ah, Gisèle, la sylphide, la belle au bois dormant, le modèle de Degas, c'est tout moi. Bien sûr, je ne néglige pas jambes, pieds, pointes, arabesques, sissonnes, fondues, pas de deux, ronds de jambes, figées par mon handicap apparent, mais souples et gracieuses en mon tutu intérieur. Non, je n'ai pas de bras. Oui, ils sont dans le lac, ces signes d'une imagination débordante.
Oh.
Eh oui, à l'école de danse, il y en a des centaines de paires, et j'en serai la mère adoptive pleine de poignes, la main de fer dans un gant de velours. De plus, des bras, j'en ai eu, et je referai par procuration les gestes de ma jeunesse mouvementée. Nous marcherons main dans la main, je serai votre bras droit, sans me tourner les pouces un instant. En un mot commençant, je serai divine, lasse d'être un mystère, une question sans réponse, d'entendre les gens se demander ce que je faisais de mes 10 doigts, de critiquer mon coccyx qui se dévisse, mes coudes qui boudent, mes radius de gugus, mes phalanges qui se démanchent. Je leur adresse un bras d'honneur, aussi déterminé que ma candidature. Assez, assez. Pour être déesse, je n'en suis pas moins femme. Certaine que je ne me mets pas le doigt dans l'œil en comptant sur un rendez-vous, cette perspective m'éblouit à en perdre la tête, mais je l'ai sur les épaules, comme vous en jugerez durant notre tête-à-tête. Vénus de Milo, et un tout petit PS, sélectionné dans vos nombreux décors, j'essaierai volontiers une paire de bras ou même un seul pour vous prendre dans mes bras, vous parler tout bas, voir la vie en rose. Nous discuterons de mon salaire, qui ne vous coûtera pas un bras, cela dit pour vous montrer que j'ai le chance de l'humourus, sinon de l'humérus.
Oh, bah elle est divine.
C'est qu'on rigole avec elle.
Ah ouais, ouais, ouais.
Curriculum vitae. Vénus, date de naissance inconnue, naissance officielle à Milo, 2e siècle avant cette ère. Nota bene, date vague, cause, origine, mère Égée. Femme au foyer, plusieurs. Fille mère de famille nombreuse. Outre ses responsabilités, action de bénévolat, infirmière de guerre à Troyes, protection des vétérans, consultante pour émigrés, installation d'aînés, cours d'éducation sexuelle aux adolescents. Siècle suivant, pilier du gymnase de Milo, bras droit d'Hermès et Héraclès, pratique des sports, de la danse, coach, masseuse, enseignement. Dans ces eaux-là, annonce de l'assassinat de Rémus par Romulus, mes descendants, pour la création de Rome, et donc épisode des bras m'en tombent que les dieux de l'Olympe prennent au pied de la lettre. Invalidité, publication du best-seller « Les bras cassés ont de la gueule ». De ce jour à avril 1820, direction honoraire du gymnase, élection à la mairie, création de la maison du tourisme, agrandissement du port, ouverture de taverne, d'un spa spécialisé en glyptothérapie, enveloppement de pierre chaude, d'un club de loisirs, Club Med. Avril 1820, lors d'une cure, enlèvement par les Français, entrée au Louvre après de nombreuses péripéties, prisonnière, mais vénérée, comme mon nom l'indique. Objet d'admiration, d'études, de polémiques durables à propos de l'érection de mes membres. Depuis, top modèle au Louvre. Carrière interrompue en 70 et 40 pour cause de guerre. Malgré des blessures dues à un accident du travail en 64 au Japon, et garder mon statut de top.
Ah, bah on est content. Hein.
Hobby, hobby.
Oui.
La danse pardi, et tout ce qui touche au corps en général, comme mon nom l'indique aussi. Littérature, sujet de la Vénus à la fourrure de sa chère masoche. Cinéma, conseillère en sadomasochisme sur le tournage du film en 2013.
C'est un CV qui est assez costaud,
ah,
quand même.
Qui est
alléchant, qui se tient, la personnalité cohérente. On a envie. Enfin, moi, je ne suis pas directrice de la danse. Vous non plus, Hervé.
Non, je pensais qu'il pourrait écrire à Shiva aussi.
Ah, oui, je pensais aussi. Oui, 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 mais
pour un échange.
C'est une rivale, plutôt.
Lucas, vous avez un rapport avec la petite Vénus. Est-ce que vous êtes le destinataire de la lettre, c'est-à-dire le directeur du ballet de l'opéra, oui
en,
ou non?
En aucun cas, malheureusement.
Ah, oh, c'est dommage.
C'est
aucun cas.
Mais il a peut-être autre chose à vous proposer.
Mais j'ai quelque chose à lui proposer, oui.
Oui, donc vous lui répondez.
Mademoiselle.
Théâtre, au théâtre. Oh, ça va être du théâtre.
Mademoiselle, vous êtes une femme courageuse. Vos états de service votre héroïsme en temps de guerre, votre magnanimité en temps de paix vous rendent apte à entendre les vérités les plus cruelles. Voici la mienne. Votre lettre a tellement peu retenu l'attention du directeur de l'école de danse qu'il me l'a fait parvenir. Son mot d'ordre est simple et toujours le même. Cette danseuse ne sait pas danser, aucune importance, on en fera un tableau. Bonjour le dégât.
Ah oui.
Je suis en effet Édouard Degas. On ne peut nier qu'une danseuse est plus faite pour danser que pour poser. 4 heures en équilibre sur une pointe, c'est difficile à tenir. La pose est entendue. On ne peut nier non plus que ma peinture peut faire tache sur les blancs tutus et les parquets ne supporteraient pas les flaques de cygnes rouges et noirs. Bref, mon propre salon de peinture et de sculpture est une sorte de salon des refusés de l'opéra. Refusés EES. Je laisse à d'autres les garçons. Rodin, mon camarade, en a récupéré quelques-uns, plus sculpturaux que terpsichoriens. Je ne vous inviterai pas à rejoindre mon gynécée de danseurs voltants pourtant. J'ai considéré en vous regardant que je pouvais aussi et pour toujours faire de vous une véritable danseuse. Oui. Avec vous, je ne jouerai pas petit bras. Je vous offrirai un traitement de reine. Imaginez-vous, oui, les mains derrière le dos. Je sais que vous pouvez le faire. Je vous mets un petit tutu, pas trop court. Vous tendez la jambe, vous y arriverez. Vous faites une mine boudeuse, au regard un peu vide. Vous allongez le cou avec grâce. Et je vous peins, et je vous sculpte. Et je vous rebaptise pour l'éternité, la seule, l'unique, la petite danseuse de Degas. Ce sera notre secret. Pour ne pas fâcher le Louvre et son conservateur, nous envisagerons quelques musées parisiens proches où vous seriez installés, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Et dans la nuit des musées, entre chien et loup, vos entrechats marmoréens concilieront l'éternel mouvement et la station fugitive. Édouard Degas.
Je suis ravie, je suis enchantée, c'est un bon début.
Oui, et puis c'est un bon emploi. Ouais, c'est du rêve.
Il faut que je change de coiffure, ça me gêne un peu. Petite queue de cheval.
Léonard de Vinci a proposé un truc équivalent à la victoire de Samothrace.
Oui, oui. Ah bon, ah
ça
oui.
A donné la Joconde. Enfin bon, ça ne lui a pas porté chance.
Un, deux, trois, veuillez vous inscrire à l'école de danse. Un, deux, trois, une leçon de valse. D'où nous vient ce rythme? Devinez, devienne les Strauss, père et fils, les Strauss, les frères. Un, deux, trois, un, deux, trois, pied devant, bras derrière, dansez-vous la valse, sentez-vous ce bonheur si léger de tourner sur vous-même, tourbillon du vertige infini. Mes belles dames, laissez-vous entraîner par votre partenaire. Un, deux, trois, un, deux, trois.
Et Schubert, Chopin, ils n'ont pas écrit des valses peut-être? Et Shostakovich, ils comptent pas?
Si, ils comptent un, deux, trois, mais ici à l'école, ils comptent pour des prunes. On ne jure que par les petits pas en mesure. Un, deux, trois, laissez-vous entraîner dans la danse. Un, deux, trois, en cadence.
D'accord, d'accord.
On a compris.
Gabriel Godard au piano, pour une publie papoucité d'Éval Massy sur la danse, avec Patrice Caumont. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, François Stressart et la bande des papous du jour à suivre. Jusqu'à 13h58, un état de choses, le joli dimanche de Jacques Jouet. Et pour le DLA, un piège littéraire proposé par Dominique Muller, aux experts Gérard Mordia, Patrice Delbourg, Patrick Beignet et Jacques Vallée. Alors voilà, nous avons tous une vie, vous et moi, les personnages de fiction, et même les choses qui se racontent parfois au jeu et par jeu et à notre micro. Objets soi-disant inanimés, tu parles. Ils en vivent des aventures, ils en ont des amis, des collègues, des employeurs bienveillants ou exploiteurs. Patrice Delbourg, pour l'heure, est une chose et il nous raconte son histoire. Vous seriez quoi, Patrice ?
Un pilulier.
Ah là 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 là.
Je ne sais pas pourquoi j'ai posé la question, mais vous aviez une tête à parler de pilulier aujourd'hui. Oui. Et il est content ou pas, la vie de pilulier ?
Il a eu des bons moments.
Une vie bien remplie.
Voilà, c'est ça.
Et puis, comme souvent, la vie des choses se dégrade avec le temps.
Ouais.
Ah, on commence glorieux.
C'était mieux avant, n'est-ce pas, Lucas ?
Seulement pour les choses.
Seulement pour les choses. Les êtres,
non, pas du tout.
Les êtres, c'est eux, se bonifient, bien entendu.
Non, vous êtes de mieux en mieux, Patrice.
C'est gentil. C'est gentil.
Alors.
J'ai la mémoire qui flanche. À force d'avoir abrité tant de granulés, de cachets, de berlingots, d'officines, je ne me souviens plus très bien de mes débuts dans la fonction. Peut-être dans le sac de Madame de Fréville pendant la Commune, à moins que ce ne soit dans le gousset du notaire Chapoutot à Montluçon, sous le mandat de Jules Ferry. J'étais déjà un beau petit boîtier en argent massif guilloché, avec poinçon apparent, d'un diamètre respectable de 62 mm et d'un style assez indéfinissable, disons victorien.
Vous êtes un objet d'art quand même, hein ?
Je suis un pilulier raffiné.
Oui, oui, oui.
Un pilulier, disons, d'une...
De classe.
Oui, de souche.
Non, parce qu'on est en plastique.
Comme
maintenant.
Un carnet.
Dans oui. Février.
Ah oui. Bah non, attendez, ça n'a rien à voir avec le pilulier plastique vendu en pharmacie.
Oui,
non. Non, non, non. Oui. Un étui raffiné, avec de chouettes décorations sur le couvercle et sur le socle. L'une représentait la cueillette des Mirabelles en Haute-Bavière, et l'autre, la prise du Haut-Königsbourg, par l'archiduc Ferdinand. À cette époque, j'étais exclusivement le réceptacle de remèdes de grand-maman. C'était le bon temps des traitements naturels à la diable, pour l'essentiel des sachets de menthe Rénise, une petite fiole de Saint-Aul, de la pommade Vicks Vaporub, le charbon du docteur Belloc, du gel Hepatum, le sirop des Vosges, un tampon de jouvence de l'abbé Souris et quelques dragées d'aloès. Tout en vrac, cette grenaille d'Orvietan. Une pharmacopée en jachère où mon propriétaire piochait à loisir. C'était ma période sauvage, ma mémoire hirsute. Cette douce anarchie me comblait. Je me sentais plus Bézenville qu'écrin thérapeutique. Il n'était pas rare qu'entre deux médications, on glisse entre mes parois un mot doux, une adresse coquine ou un léger préservatif. Mon utilisatrice évoquait à mon propos le coffret de Santal de Charles Cros, ou le drageoir à épices de Joris Carl Huysmans. Mon amour de la poésie était comblé. Puis vint ma période rose, avec l'apparition du comprimé. Une ébullition de l'industrie pharmaceutique. De la prise de la pastille, je subis tous les assauts. On me greffa une
couronne. On n'aurait pas pu s'en passer, voyons, sur le sujet. Elle était incontournable.
À l'OS, rien de nouveau. Hein.
On me greffa une cloison à rotation en mon sein. Ce fut le début du remembrement. Je me muais en semainier intransigeant. Surgit ma période bleue. Le temps des poudres et des sachets au chevet d'un notaire de Beauvais, hypochondriaque à tout crin, avec séparateur réglable et amovible en fonction de la périodicité des raptus d'anxiété. À droite, le foie, triolex, citrate d'alvérine, xénical, pampéran. À gauche, le cœur, coversil, cardégique, crescorte et dormine. On m'ouvrait pour un oui ou pour un non. Je perdais beaucoup en crédibilité. Je passe sous silence ma séquence molle, où je ne recueillis qu'antidépresseurs sédatifs et tranquillisants dans la sacoche en sky d'un comptable bipolaire. L'horreur quotidienne. Au lever, Temesta, midi, Lexomil, Tranxène au goûter, Prozac à tir tendu pour le soir, une pluie de gouttes de Rivotril pour le médianoche. Aujourd'hui, avec mon ultime période cubiste, dans la poche d'un agent de change survolté, je vis le morcellement effréné de mon cadastre. Une posologie pour chaque heure de la journée, souvent du placebo, du succès d'année. De qui se moque-t-on ? Moi, monsieur, je soigne, je ne berne pas. Matin, midi et soir, c'est la guérilla du remède, le harcèlement de la médication. On m'ouvre à tout bout de champ, mon mécanisme en pâtit, mes charnières en sont faussées. Mon aspect se ternit, je deviens funèbre cassette où s'empilent les névroses. Où est passé mon scintillant panache d'antan ? On m'a morcelé, on m'a segmenté, on m'a disloqué. je suis devenu une sorte de Rubik's accueillant le tout venant, la pilule du lendemain, la capsule retard pour les gueules de bois, les suppositoires pour favoriser l'érection, la capsule végétale pour lutter contre la mauvaise haleine, la panacée pour éviter les ronflements nocturnes. Quelle misère, quelle disgrâce! Où sont mes tendres remèdes d'apothicaire de naguère? Oh, je peux bien l'avouer, je n'en peux plus de toutes ces pralines superfétatoires, ces avanies en forme de granulés, serrées comme des sardines en mon ventre. Je ne soigne plus, j'amuse la galerie, j'étouffe en mon inanité fonctionnelle. Jadis, ouais, j'étais à l'aise dans ma mesure. Les pilules flottaient dans leur habitacle. Je galopais dans les grandes plaines de Patagonie. Aujourd'hui, les gélules sont au coude à coude. Je me retrouve tassé dans le delta du Mékong. Oh, la vie de pilulier reste avant tout une bien douloureuse hantise démographique. On est dans un ermitage et on se retrouve dans une termitière.
Mais que c'est triste.
Moi, si je vous trouve dans un vide-grenier, je vous achète.
Ah, vous voyez.
C'est vrai.
Je mettrai des perles.
Vous êtes mignonne.
Plus de médicaments.
Vous êtes mignonne, Eva. Mais je mérite mieux qu'un vide-grenier, quand même.
C'est rien qu'un vent de nostalgie, mamie. Fan comme un bouquet de fleurs. Telle est la triste tragédie, mamie, d'une ritournelle sans auteur. C'est rien qu'une fichue mélodie, mamie, rythmée sur tes battements de cœur. Une rengaine tombée dans l'oubli, mamie, c'est la symphonie d'Alzheimer.
D'Alzheimer, c'est Luce qui chante. Et pour un nouveau joli dimanche en pastiche, Jacques Jouet, à lui de raconter cette journée délicieuse qu'on attend toute la semaine, on dit vivement dimanche, et pas qu'au cinéma. De qui est-ce le joli ou le beau dimanche, Jacques Jouet ?
Le beau dimanche d'André Breton.
Oh, ça va être rigolo, je sens.
On en rit d'avance.
C'est mort déjà, là.
Mon dimanche à la grasse matinée de soie, au vagabondage de résistance de grille-pain, à la dame sur le ventre. Mon dimanche au paréo de Bonaparte sous l'anse de la cafetière, mon dimanche à la confiture de drapeaux et de feux d'artifice de réussite annoncée, au pelage de petits gris sur la poussière grise, à la mangue de feu et de plateaux platanicien, mon dimanche à la musique sous les deux espèces, à la batte du guignol qui fait le balancier pour dire l'heure, à la matière de fromage battu, mon dimanche aux encoches dans le mur de la prison de Vaurien, au fil à beurre d'ailerons de requin, mon dimanche aux tuiles romaines de grillage à poule et de vanité du trou, mon dimanche de Saint-Galmier et de bac à sable avec mâchicoulis de 5 ans et demi, mon dimanche aux chevilles de bouleau, mon dimanche aux poplités de nombreux pies et de nains jaunes, aux faux de batifolage dans la prairie, mon dimanche aux érelles de prêles et de ciguës, de dimanche des rameaux, de ginkgo biloba et de chrysalide, aux biceps d'œufs de limpe et de concasseurs, et de cocktails du béton et de la taloche, mon dimanche aux heures de vol, aux mouvements de fond et d'excès, mon dimanche à l'os à moelle, aux délices de Carnac, mon dimanche à la rage de poèmes de rémanence des nuits, au centre de coussinets minuscules, au lot de premiers gagnants, au lot de pénétration, à l'omoplate de rubis ingurgités et de framboises enchâssées, mon dimanche aux planches de théâtre, aux planches de traite et de peine à l'arabiata, et de voliges de bréchets de cygnes noirs, aux pousses de durian, mon dimanche aux pousses de placeuses et de pintades, mon dimanche aux pousses de pousse-pousse et de carambars, mon dimanche aux pousses de tsunami, mon dimanche à la paume de cardinal romain et de polisson qui se douche, mon dimanche à la paume d'Amazon, mon dimanche à la paume souillée de Parker Quink, mon dimanche à la paume de poils dans la main torsadée, à la paume de tenue de printemps, de tenue d'été, de neige et de pétales.
Et le léger silence qui suit Jacques Jouet, c'est aussi du Jacques Jouet. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête. Le DLA, diagnostic littéraire à l'aveugle. Souvent, Dominique Müller fait l'experte à ce jeu. Mais voilà, aujourd'hui, changement de rôle, c'est elle qui va tenter de nous piéger tous. Vous qui jouez tranquille à la maison et nos experts du jour, Patrick Beignet, Gérard Mordillat, Patrice Delbourg et Jacques Vallée. Elle a donc choisi, Dominique, un petit bout de littérature qui se trouve quelque part. Elle seule sait, roman, essai, nouvelle, magazine, pourquoi pas. On joue avec tous les genres du moment que l'auteur qu'il s'agira d'identifier est très connu. Maintenant, un auteur très connu pour l'un peut ne pas l'être pour les autres. D'ailleurs, je rappellerai qu'à ce jeu, un jour, Jérôme Clément avait piégé tout le monde avec un petit bout de littérature de Lucie de la rue Mardru, écrivain que bien peu d'entre nous connaissaient, mais qui pour lui, Jérôme, était extrêmement connu. Bien, c'est parti. Dominique Müller nous fait la lecture et nous, on réfléchit à qui pourrait bien être l'auteur de l'extrait en jeu.
Ah, madame, depuis le commencement de ma carrière, combien ai-je vu de malheureuses épouses dans la triste condition où vous vous trouvez ? Ces artistes qui vivent du public et rien que pour lui n'apportent au foyer que la fatigue de leur gloire ou la tristesse de leurs échecs. Une existence désœurée, sans boussole ni gouvernail, des idées subversives à l'envers de toute convention sociale, le mépris de la famille et de ses joies, l'excitation cérébrale cherchée dans l'abus du tabac, des liqueurs fortes, sans parler du reste. Voilà ce qui constitue ce terrible élément artistique auquel votre chère tante désire vous soustraire. J'ai commencé déjà un projet de mémoire judiciaire où vos principaux griefs se trouvent groupés et mis en lumière assez habilement. Voici les grandes divisions de l'ouvrage. Premièrement, grossièreté de monsieur envers la famille de madame. Refus de recevoir notre tante qui nous a élevés et qui nous adore. Surnom de Tata Bobos, Fée Carabos et autres donnés à cette vénérable demoiselle dont le dos est un peu voûté. Raillerie, épigramme, dessin au crayon et à la plume sur ladite infirmité. Deuxièmement, insociabilité. Refus de voir les amis de madame, de faire des visites de noces, d'envoyer des cartes, de répondre aux invitations, etc. Troisièmement, dilapidation. Argent prêté sans reçu à toutes sortes de bohèmes, tables toujours ouvertes, maisons transformées en hôtellerie, fondation d'une revue artistique et littéraire. 4 points d'exclamation. Troisièmement, grossièreté envers madame. Avoir dit tout haut en parlant de nous, quelle dinde!
C'est un texte assez curieux. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce texte, Gérard Mordillat?
Oh, il nous raconte très précisément la visite d'une épouse à un avocat qui cherche sans doute à se débarrasser d'une façon ou d'une autre de son mari, ou en tout cas d'avoir des conseils, d'avoir des avis. Alors, il y a quelques éléments, à mon avis, qui nous permettent de situer ça dans le temps, parce que l'existence désœurée est un terme
rare,
absolument
ça,
magnifique et un peu désuet. Oui. L'abus de tabac utilisé comme ça, je pense que là aussi, ça nous dit une époque où le tabac n'avait pas la diffusion qu'il a aujourd'hui. Et de même, un peu plus loin, toutes sortes de bohèmes. On ne parle plus des bohèmes aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est un... Moi, je vois ça aux alentours plutôt du 19e siècle.
Oui, bien, très bien argumenté. Jacques Vallée, premier point de vue, première approche.
Je suis tout à fait d'accord. C'est un texte que je vois aussi fin 19e, début 20e. Et par exemple, grossièreté de monsieur envers la famille de madame, ce sont des expressions que l'on n'emploierait plus sous cette forme. On parlerait du mari, on parlerait de l'époux. Mais...
Et ça dépeint aussi un certain milieu, parce qu'on
dit pas monsieur et madame
dans les milieux populaires.
Et puis, je ne sais pas si c'est une histoire d'avocat, parce que moi, je voyais ça plutôt dans une maison de retraite pour artistes.
La roue tourne.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. On parle de la vie des artistes qui vivent au public et la triste condition où vous trouvez. Et on rappelle tout ce qu'il y avait dans cette vie d'artiste et dont on la prive. Donc c'est peut-être une dame qu'on a conduite dans une maison pour se reposer.
Ah bon, c'est la fin du jour avec Jules Berry, c'est ça?
Oui.
Dans la version film.
Et donc, il y a quelqu'un qui, dans la pension, doit préparer une riposte et parle d'un ouvrage, mais c'est humoristique. Il y a beaucoup d'humour.
Bah, c'est assez drôle. Et puis, ça se termine sur « Quelle dinde ».
Oui, c'est
alors,
très... «
Quelle dinde », c'est assez daté, non, oui, comme expression, daté. Patrice Delbourg.
Non.
Non, vous dites toujours ça, vous?
Moi, je le dis assez volontiers,
ah bon,
c'est vrai, mais on le disait aussi au temps de la comtesse de Ségur. Hein.
Ah, oui,
en fait, c'est sans âge, « Quelle dinde hein. ».
Oui.
Comme quel crétin aussi d'ailleurs. Bon, il y a pas. Mais il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est sans parler du reste. Vous voyez, chercher dans l'abus du tabac les liqueurs fortes. Sans parler du reste, vous voyez, c'est ce qu'on dit. On murmure sous le manteau.
Oui.
Et puis toutes sortes de bohèmes. Donc il y a des mots presque qu'on s'entendrait à être chuchotés par le personnage. C'est une scène de genre. Donc c'est une comédie bourgeoise, mais que je mettrais presque avant le 19e.
Ah bon?
Oui.
Carrément.
Car avant.
Carrément. Fin 18e.
Oui, même milieu 18e.
Ah bon?
Oui, même peut-être avant.
Même peut-être avant. Vous allez remonter au Moyen-Âge.
Avec cette monstruosité d'idées, fondation d'une revue artistique et littéraire.
Ouais.
Avec tous les points d'exclamation, quelle horreur! C'est vraiment le comble de l'horreur pour la famille de dépenser de l'argent pour une revue littéraire.
Ah bah.
Donc ça date quand même d'une époque.
Il y a un côté
où...
précieuse ridicule.
Patrick Beignet, d'accord avec cette hypothèse?
Non, pas avec le décalage chronologique que propose Patrice vers le 18e. Moi, je mettrais ça plutôt dans les années 20 ou début 20e siècle, en tout
cas.
Ce qui est frappant, effectivement, c'est une espèce de tension sociale qui existe, la peur ou le refus de l'art, ce terrible élément artistique. Et bon, évidemment, tout ça est converti en quelque chose de comique, mais c'est grinçant.
Ouais.
Et c'est pas très facile de voir, enfin j'ai du mal à voir d'où ça peut sortir. Ça me rappelle des choses, mais je ne sais pas lesquelles. Je suis un peu embêté. Grossièreté de monsieur envers la famille de madame, je dirais que cette façon d'utiliser monsieur et madame, ça a un côté domestique.
Oui, oui. Ah,
c'est plutôt le langage des domestiques.
Oui, à l'égard de leur patron.
Ah, oui.
Oui.
Parce que j'ai eu le sentiment qu'on disait autre chose. Tout
ah
à
non,
l'heure.
Non, non, moi j'ai,
ah, bon, d'accord.
J'ai dit que ça se passait forcément dans un certain milieu.
Oui.
Parce qu'on ne parle pas de monsieur et madame, ça se passe toujours dans un certain milieu. Oui. Ouais.
Bon. La revue artistique et littéraire, je ne crois pas que ce soit le 18e siècle.
Mais on est dans une maison de retraite, comme le pense Jean-Valier.
Moi, je n'ai pas du tout pensé à ça. Je ne pense jamais aux maisons de retraite, de toute façon.
Non,
ça viendra bien assez tôt.
Le « sans parler du reste » me paraît très énigmatique. Enfin, oui, c'est très elliptique. J'aurais du mal à le...
Enfin, moi, je crois qu'il s'agit quand même très clairement, là, d'une scène aussi de séduction. C'est-à-dire que l'avocat qui prend fait et cause pour cette épouse malheureuse, en même temps fait de lui un portrait en creux qui est plein d'avantages, puisqu'il dit « j'ai commencé un projet où vos principaux griefs seront groupés » et mis en lumière assez habilement. Et assez habilement, il glisse comment le mari de cette femme est en fait un grossier personnage sans aucun intérêt, supposant par contraste que lui a toutes les qualités d'intelligence, de grâce et de délicatesse.
Il se met en valeur. Est-ce que vous pensez que c'est elle qui a de l'argent ou c'est lui? C'est le mari ou c'est la femme qui a de l'argent?
Ah, moi,
j'ai l'impression qu'elle a de l'argent.
C'est la dame.
C'est la dame
qui a de l'argent. D'abord, elle vient consulter. Et si elle vient consulter effectivement un avocat, ça coûte. Et il est d'autant plus tenté de la séduire pour non seulement avoir le prix de sa défense, mais même d'avoir la dame en prime.
Ouais. Patrice Delbourg, ça se trouve dans quoi, ça?
Ben, ça peut se trouver dans une séquence théâtrale, dans une sottille. Il y a un mélange de genres curieux. Ça commence un peu comme une chanson. « Ah, madame, j'ai du bon fromage !» Vous voyez, ça peut commencer comme une chansonnette, une ritournelle. Et puis après, il y a cette énumération qui est quand même un peu plus mastoc. Hein. Premièrement, deuxièmement, troisièmement.
Oui, ça, c'est pas...
Alors, bon, est-ce que c'est dans un roman? Non. Est-ce que c'est des formes de didascalie? Je sais pas. En tous les cas, c'est pas un roman franc. C'est quelque chose de bâtard, de métissé, je pense.
Ah bon? Oui.
Mais alors on peut trouver ça, effectivement, un peu plus tard que le 18e. Mais ça pourrait être quand même aussi quelque chose en perruque.
C'est écrit par un écrivain, Patrick Beignet, ou par quelqu'un qui fait quelque chose d'autre par ailleurs et qui s'essaye de temps en temps à écrire?
Je Bon, c'est de la littérature peut-être assez journalistique, c'est une forme légère, c'est très théâtral, comme le disait Patrice Delbourg. Ouais. Si c'est un écrivain, c'est, je pense, quelqu'un qui a surtout fait du théâtre.
Ah, ou de ces petits,
ces scénettes, ces dialogues qui occupaient beaucoup de place dans la presse du début du XXe siècle.
Oui, j'ai rarement dit à l'air sceptique. Mais
oui, je suis sceptique. Moi, je pense que c'est plutôt l'œuvre d'un écrivain qui a publié ça dans un journal ou dans une revue, qui écrit par ailleurs tout à fait autre chose et qui fait là une scène amusante pour gagner sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin d'argent et qui, d'un seul coup, écrit ça. Il écrit ça de chic, c'est drôle, c'est bien enlevé, c'est publié en revue ou dans un journal.
Et il paye son loyer.
Il paye son loyer.
Ça n'est pas fondamentalement différent de ce que j'ai dit.
Non. Exactement la même chose. On réécoute le texte, Dominique.
Ah, madame, depuis le commencement de ma carrière, combien ai-je vu de malheureuses épouses dans la triste condition où vous vous trouvez ? Ces artistes, qui vivent du public et rien que pour lui, n'apportent au foyer que la fatigue de leur gloire ou la tristesse de leurs échecs. Une existence désœuvrée, sans boussole ni gouvernail, des idées subversives à l'envers de toute convention sociale, le mépris de la famille et de ses joies, l'excitation cérébrale cherchée dans l'abus du tabac, des liqueurs fortes, sans parler du reste. Voilà ce qui constitue ce terrible élément artistique auquel votre chère tante désire vous soustraire. J'ai commencé déjà un projet de mémoire judiciaire où vos principaux griefs se trouvent groupés et mis en lumière assez habilement. Voici les grandes divisions de l'ouvrage. Premièrement, grossièreté de monsieur envers la famille de madame. Refus de recevoir notre tante qui nous a élevés et qui nous adore. Surnom de Tata Bobos, Fée Carabosse et autres donné à cette vénérable demoiselle dont le dos est un peu voûté. Raillerie, épigramme, dessin au crayon et à la plume sur ladite infirmité. Deuxièmement, insociabilité. Refus de voir les amis de madame, de faire des visites de noces, d'envoyer des cartes, de répondre aux invitations, etc. Troisièmement, dilapidation. Argent prêté sans reçu à toutes sortes de bohèmes. Tables toujours ouvertes, maisons transformées en hôtellerie. Fondation d'une revue artistique et littéraire. Quatrièmement, grossièreté envers madame. Avoir dit tout haut en parlant de nous, quelle dinde.
Ça pourrait être une traduction, ce « quelle dinde », Patrice Delbourg.
Non, what a turkey. Non.
Non.
Non, mais là, à réécouter, là, il y a un côté quand même assez bande dessinée, un peu Bécassine dans tout ça.
À cause de Carabosse.
Oui, Tata Bobos, les numérations, la fissure sociale, une espèce de lutte des classes sous-jacente quand même, mais avec bonhomie. Un peu. Donc je me demande si l'auteur n'était pas aussi un peu dessinateur humoristique, croqueur par ailleurs.
Je sens que Patrice Delbourg a une piste, il la tient, Jacques Vallée.
Non, moi je trouve que c'est un écrivain qui dénonce presque au vitriol les conditions sociales et qui met en scène une actrice, si je comprends bien, qui tout d'un coup est recasée ou rentre dans sa famille ou a épousé quelqu'un... Et puis qui tout d'un coup se trouve privée de tout le milieu qu'elle connaissait, de toute la fête et de tout ça. Et je pense que c'est le fait qu'il y ait dans la liste qui est donnée, c'est aussi une façon de vraiment de dénoncer. C'est un écrivain qui s'est engagé socialement, je crois.
Ah, alors on progresse. Vous avez un peu évolué, Patrice Delbourg, 18e ou toujours 19e ?
Oui, 18e, peut-être début 19e. Mais là, il y a quelque chose qui me transperce quasiment comme un pieu le plexus. Je me demande, mais juste sur trois mots, si l'auteur n'est pas une femme dans
ce
texte.
Ah non !
Oui.
Ça existerait donc.
Ça existerait. Mais alors, juste, vous voyez, mais justement, je ne vais pas vous faire plaisir, mais qui ? Ça existerait, mais je ne vois pas qui. Parce que, sans parler du reste, ça, c'est terriblement féminin. Et également, et toutes sortes de bohèmes. C'est l'aparté féminin par excellence.
Ah oui ?
Je n'ai pas dit apartheid. Hein. L'aparté féminin. Donc, maintenant, reste à trouver la femme. J'en ai aucune idée. Mais
Je vais revenir vers vous très vite, vous savez. C'est, sans parler du reste, vous qui êtes une femme comme moi, Dominique, et sans donner d'indices,
en
vous
revanche, diriez que c'est très féminin. Plutôt rarement toutes sortes de bohèmes. Ça, je ne connais aucune femme qui dise ça dans mon entourage.
Aujourd'hui,
de bohème, non. Mais sans parler du reste.
Mais il y a
sans
trois
parler
siècles.
Du reste. Et comment?
Et comment?
Ça veut tout dire, vous comprenez?
Ah oui, et Patrick, Gérard, Jacques, vous dites jamais sans parler du reste?
Jamais.
Il n'est pas une femme.
Jamais.
C'est-à-dire, j'ai dû le dire dans une époque antérieure, mais je crois que c'est passé de mode. Ah
oui. Cet homme-là, il boit, il fume, sans parler du reste. Vous voyez ce que je...
Oui, on voit ce qu'il veut dire, effectivement, dans ce reste-là.
Oui, mais c'est très l'univers bourgeois qui est une caricature. Oui. C'est une caricature. Un peu.
Enfin, d'après Patrice, je suppose que toutes les femmes sont des petites bourgeoises en puissance.
Ah, dis cela.
Non, il n'a pas dit ça, quand même.
Ça, quand même.
Il l'a peut-être pensé, mais...
sa tête.
Pour une fois, j'essaie de ramener un auteur femme sur le tapis. Oui, j'en suis pas récompensé.
C'est pas très flatteur, quoi, juste. Mais bon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de livrer des noms, Patrick ?
Sur le sexe de auteur ?
Oui, éventuellement.
Rien du tout, non, je n'ajouterai rien.
C'est plutôt un auteur masculin ?
Oui.
Oui, Gérard ?
Oui, oui.
Jacques ?
Oui.
Alors, cette femme, Patrice Delbourg, qui est-ce ?
C'est difficile. Il y en a six, généralement, dans les possibilités.
Six.
J'élimine Georges Sand, Madame de Lafayette, Colette, Huette-le-Duc, donc je dirais la comtesse de Ségur.
Bah, c'est intéressant, remarquez. Oui. Hein. La comtesse de Ségur aurait écrit ça. Oui. Vous abondez?
Ah non, mais je trouve que c'est une remarque...
À cause de la dinde finale.
C'est lumineux.
Oui.
Guillot et le cheminot, ça se termine comme ça. Quelle dinde!
C'est vrai?
Mais oui.
C'est lumineux.
C'est lumineux, mais il va nous convaincre. Et ce serait peut-être ça, en plus. Vous avez une autre option, vous, Jacques Vallée ?
Ben moi, je penche pour quelqu'un qui a écrit du théâtre et qui est un écrivain social un peu, Octave Mirbeau.
Ah, oui, Octave Mirbeau. Pourquoi pas ? Et pour vous, Gérard Mordillat ?
Moi, je pense que ça serait une des scénettes écrites par Honoré de Balzac.
On n'a que des très belles pointures,
oui,
là.
Ça pourrait aussi.
Oh là là ! Balzac. Et alors, qu'est-ce qu'il va nous dire il va nous dire Flaubert, Patrick Beignet?
Non, non, c'est la fausse note. Hein. J'ai resté dans l'époque dont je parlais tout à l'heure, mais je suis très troublé, effectivement, par les trois propositions. Moi, je dirais un auteur du début 20e, donc j'ai beaucoup pensé à Sacha Guitry, mais je penserais à un roman de Tristan Bernard, par exemple.
Ah, très bien. On vous propose des choix intéressants, audacieux, de
passionnant même.
Oui, alors la comtesse de Ségur pour Patrice Delbourg, Octave Mirbeau pour Jacques Vallée, Honoré de Balzac pour Gérard Mordillat, Tristan Bernard pour Patrick Beignet. Waouh !
Oui, ça vole très haut.
Oui, il y a de ça dans votre liste.
Ben non, hélas.
Pas du tout, du tout.
Non, mais enfin, c'était bien trouvé quand même.
Oui, bravo quand même. Alors, mais vous restez pour la suite. Hein.
Ce texte pourrait être de Tourguenieff, Yvon, Daudet,
Alphonse.
Ou Strindberg, Auguste. Comme vous voyez, la barre est assez haut aussi.
Alors, Tourguenieff, Daudet, Strindberg, qui veut se prononcer? Il n'y a pas de femme, effectivement. Ah ben oui, ça c'est...
Oui.
Patrick Beignet.
Moi, ça va tout à fait au Strindberg, dont j'ai souvenir.
Oui. Vous n'y aviez pas pensé, mais parce qu'on ne pense pas à lui tous les jours.
Je ne pense jamais tout seul, de toute façon.
Oui, oui.
Donc, mais c'est effectivement un comique qui est souvent involontaire.
Ouais, ouais.
Et ça pourrait être le cas.
Et il y a le côté méchant, quoi.
Oui. Mm-hmm. Et puis le côté, enfin, les récriminations sans fin, la famille de madame, c'est du pur Strindberg.
Gérard Mordillat.
Eh bien, j'adhère à cette idée. Pour moi aussi, c'est du Strindberg. Surtout que j'ai revu Fanny et Alexandre, dans lequel, à la fin, la grand-mère va jouer du Strindberg. Et je crois que c'est un signe.
Ah bon, oui. Jacques Vallée.
Je pense aussi à Strindberg. Immédiatement, j'ai pensé, dès que les noms ont été prononcés.
Quel bel accord entre vous trois.
Bah, le côté très misogyne de Strindberg peut être exprimé comme ça.
Ouais. Et pour vous, Patrice Delbourg ?
Moi, je vais me distinguer.
Oui, distinguer.
C'est bien Alphonse Daudet, c'est pas Léon Daudet.
C'est pourquoi je précisais les prénoms de tout le monde.
C'est Alphonse.
C'est pas non plus Albert Tourguenieff.
Ni Marcel Strindberg.
François Strindberg, oui.
Bah, je pense, c'est vrai que je ne pense pas non plus tous les jours à Marcel Strindberg. Non, il y a un côté un peu Gaieté d'Escadron, le début, « Ah, madame », et puis toujours sans parler du reste. Toujours, je suis un peu focalisé sur ces quelques mots, je dirais, Alphonse Daudet.
Eh bien voilà, un Daudet. Alors, un Daudet pour Patrice Delbourg, 3 Strindberg pour Patrick Beignet, Gérard Mordillat, Jacques Vallée, 0 Tourguenieff, le pauvre. Ouais, personne n'a voulu de lui. A-t-on eu tort ou raison ?
On a eu raison de ne pas vouloir de lui. Ouais. Et alors il y a un gagnant, vous aurez donc deviné forcément qui c'est Patrice Delbourg. Voilà. Mais
c'est donc Alphonse
Daudet. Mais j'ai un tout petit peu triché quand même, parce que c'est sorti d'un recueil de nouvelles qui s'intitule « Les femmes d'artistes ». Celle-ci s'intitule « Les voies de fait ». Et elle est prise par Mallarmé en feuilleton dans la dernière mode, en l'occurrence du 4 octobre 1874, et c'est en deux livraisons. Je pense que Alphonse Daudet l'a écrit exprès pour la dernière mode. C'est une espèce de petite nouvelle épistolaire, et c'est toujours Maître Petit Bris qui écrit donc à cette jeune femme mariée depuis un an à, oh mon Dieu, un artiste, et qui donc lui conseille comment faire pour s'en débarrasser sans avoir aucun tort. Et ça s'appelle « Les voies de fait » parce que il va lui conseiller d'être désagréable avec lui en public de manière à ce qu'il lui donne une claque devant tout le monde. Sinon qu'à la fin, c'est elle qui va lui donner une claque devant tout le monde parce qu'elle est horriblement vexée, elle le traite de tous les noms et de toute évidence, il s'en fiche, mais complètement.
Ah bon.
Alors, paf, la fin de la nouvelle, c'est ça. Elle lui donne une claque et tout le monde la voit. Donc, tous ses espoirs d'être une divorcée malheureuse et bien considérée s'effondrent.
Oui, les portes claquent plus chez Daudet que chez Strindberg. Et Tata Bobos chez Strindberg.
Ça me fait rire, Tata Bobos.
Mais bon, mais j'en tire aucune vanité parce que bon...
Ah non, mais vous avez quand même gagné, hein. Oui. C'est pas rien, Patrice Delbourg. Nous, on est fiers de vous.
C'est surtout là-bas, la Malle ou les Bains, qui seront fiers.
Ah oui.
Oui, c'est là où il se soignait, Daudet.
Il allait chez Lucas Fournier.
Il allait chez Lucas Fournier soigner ce qu'il appelait la doulou.
Écoutez, on en apprend des choses avec Patrice Delbourg. Hein. Bravo, en tout cas, c'était bien de jouer, hein, Gérard, Patrick, oui. Jacques, vous reviendrez.
Bien sûr.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Stressart avec Anne de Pelchin et Pierre Mine. À télécharger sur franceculture.fr, rubrique podcast pendant un an. À réécouter 1000 jours à la page des papous du 22 février, page sur laquelle vous pouvez écrire vos remarques, questions, demandes en commentaire. Et puis, promenade du dimanche oblige, visitez nos pages vie du club et les livres des papous pour tout savoir ou presque de la vie publique des membres de notre petite bande de papous. Au revoir, c'est presque l'heure maintenant de retrouver Antoine Perrault pour Tire ta langue. Il arrive, passez un très bel après-midi sur France Culture. Tiens,